Shalom à tous, Boker Tov les Koulam, Boker Tov. Et on revient dans notre étude donc hebdomadaire, j'ai envie de te dire, du lundi matin, sur la Tefila. Et c'est parti. C'est parti pour la Tefila et nous sommes arrivés à la bracha numéro 5. La cinquième bracha de la Shmoneh Esrei, de la fameuse 18 brachot qui en fait est 19, tout à fait normal. On a déjà expliqué ça. Et donc on est arrivé à la cinquième bracha. Et cette cinquième bracha, c'est Birkat à Teshuvah. Birkat à Teshuvah. Et là, je t'arrête tout de suite. Ah oui, je préfère te le dire. On va absolument pas parler de ce que tu crois. Parce que cette cinquième bracha, Birkat à Teshuvah, en aucun cas, ne vient nous parler de la Teshuvah que je pourrais avoir à faire si j'ai fait des fautes. Ah bah oui, évidemment. Pourquoi est-ce que cette bracha ne vient pas parler de la tshuva suite à certaines fautes que j'aurais pu faire? Eh bien, tout simplement parce que la bracha qui vient parler des fautes que j'ai pu faire, eh ben elle est la bracha d'après. Pas shoot. La bracha d'après, on te parle de birkat haslicha, où on demande pardon pour les fautes qu'on a fait. Donc, si la bracha de la slicha sur les fautes, c'est la bracha d'après, la sixième, eh bien, ça veut dire que Birkat HaTeshuva ne parle pas de ça. Mais attends, deux secondes. Tu es en train de me parler d'une tshuva qui est indépendante des fautes? De quoi parlons-nous, Rabotai? Bien, les amis, ce matin, nous allons ouvrir un des sujets les plus importants du judaïsme. Nous ne sommes pas chrétiens. Oui. C'est un ridouche énorme, mais nous ne sommes pas chrétiens. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, chez nos amis chrétiens, l'homme est fondamentalement fauteur. Il est né fauteur, il vit fauteur et il meurt fauteur. Pourquoi? Eh bien, parce qu'il porte en lui, dans son ADN, les gènes, si je puis dire, du péché originel. Deux secondes. Essayons de comprendre de quoi nos amis chrétiens parlent. Eh bien, ils disent la chose suivante. On a lu dans la Torah, et il y a marqué là-bas, que Adam et Ève ont fauté dans le Gan Eden, qu'après la faute du Gan Eden, il y a eu expulsion du Gan Eden, et que la première chose qu'on nous raconte après l'expulsion du Gan Eden, c'est que Adam et Chava, ils ont fait des ham-ham. Ils ont une relation sexuelle. Et que donc, eh bien, on en déduit de là, que l'acte sexuel n'est autre que la résultante du péché. Donc, toute personne sur Terre, dans la mesure où s'il est là, c'est parce que bah, papa et maman, il y a quelques années, trouvaient que c'était une bonne soirée au coin du feu, et ils ont fait des ham-ham. Donc, eh bien, toute personne sur Terre est née portant en lui le fait qu'il vient d'un acte sexuel et que donc il est porteur des résultats du péché originel. Il est donc fauteur par essence. Tu comprends pourquoi dans la théologie chrétienne, eh bien, il fallait absolument que le Sauveur naisse d'une mère qui n'a pas eu de relation sexuelle, la Vierge Marie, l'Immaculée Conception, tout ça, tout ce délire. Bon, au-delà du fait que c'est complètement faux ce qu'il raconte, il va falloir essayer de comprendre pourquoi c'est faux. Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont lu la Torah, mais ils ne la comprennent pas. C'est-à-dire, ils ont oublié de lire Rashi, qui nous aide à comprendre. Et Rashi nous explique à propos du verset « Ve'adam yada et rava ishto » et Adam a connu, bibliquement, sa femme Ève. Eh bien, Rashi nous explique quelque chose de très intéressant. Que le traduire « et Adam a connu Ève » c'est une erreur. Parce que, nous dit Rashi, que dans le Tanakh, lorsque tu veux raconter un événement passé, eh bien, tu mets le verbe et ensuite le sujet. Vaikar Terach. Et Terach a pris. Mais nous dit Rashi, lorsque dans le Tanakh, tu racontes un événement passé et tu mets le sujet avant le verbe, Ve'adam Yada, et Adam a connu, eh bien, en fait, ça ne veut pas dire et Adam a connu. Ce n'est pas du passé, nous dit Rashi, c'est du passé antérieur. En d'autres termes, on devrait dire « Et Adam avait connu Ève ». Quand? Eh bien, avant ce qu'on vient de te raconter, à savoir avant l'expulsion du Gan Eden, avant la faute. Avant la faute, donc dans le Gan Eden, Adam avait déjà connu Ève. En d'autres termes, l'acte sexuel n'est absolument pas la résultante du péché. Au contraire, il est l'acte le plus kadosh qu'il soit quand il est fait entre un homme et sa femme. Et il nous ramène à une époque avant la faute où il n'y avait que de la kedusha. Donc, voilà, nos amis chrétiens ont tort en essayant de nous dire que tout homme est fauteur parce que résultant d'un acte sexuel. Et pour nous, c'est très, très important. Pourquoi? Eh bien, parce que ça nous permet de comprendre que non, l'homme ne faute pas forcément. De venir dire que Birkat HaTshuva, c'est Birkat HaTshuva Mechataim, que j'aurais fait des fautes et que donc je dois faire Tshuva, eh bien, c'est remettre en cause l'idée même que je peux ne pas avoir fait de faute. Et je vais devoir quand même faire Teshuva. Et ça, il va falloir qu'on explique de quoi il s'agit. Quoi? Il y a des gens qui peuvent ne pas fauter? Ken! Ken, la Gemara donne 4 exemples de personnes qui n'ont jamais fauté. Jamais! Kloum, Shum Davar. On nous dit que c'était Binyamin Ben Yaakov, par exemple. On nous parle également de Ishaï, père de David. On nous parle également, si je ne me trompe pas, attends, je vais te le retrouver, de Kilav, fils de David. Et on te parle également de Amram, le père de Moshe. 4 personnes qui n'ont jamais fauté. Donc tu vois que c'est faisable. Alors oui, toi et moi, on faute. C'est d'air. On n'est pas au niveau. D'accord. Mais le fait que la Gemara nous explique qu'il y a au moins 4 personnes qui n'ont jamais fauté, ça montre que c'est une éventualité, une possibilité, un niveau à essayer d'atteindre. Mais alors, si on ne faute pas, qu'est-ce que veut dire faire teshuva? Lorsqu'on ouvre les lois sur la teshuva dans le Rambam, donc chapitre 1, halakha 1, le Rambam a un noussar, a une tournure de phrase qui est très, très, très pointilleuse. Et il faut qu'on voit exactement ce qu'il dit. Nous dit le Rambam, « Kol mitzvot sheba Torah, ben ase, ben lo ta'ase » Toutes les mitzvot de la Torah, qu'elles soient positives ou négatives. Im avar adam al achat mehem. Si jamais quelqu'un a fait une faute, et en a transgressé une, ben bezadon ben dikaga, qu'il ait fait volontairement ou involontairement. Mais le point central de la phrase, c'est im avar adam. Si quelqu'un a fait une faute, pas che yavar adam. Non, pas quand il va fauter. Non. Si jamais il faute, grand chidouche du judaïsme, t'es pas obligé de fauter. Mais c'est un chidouche énorme. T'es pas obligé de fauter, non. Vous savez, comme on dit en français, c'est plus fort que moi. C'est plus fort que moi. Non, c'est l'homme plus fort que toi. C'est dur, faut travailler, d'accord. Avant, c'est pas plus fort que toi. C'est vrai pour tout, hein. Je veux dire, il n'y a pas de raison que tu n'acceptes pas le papa violent ou le mari violent qui bat sa femme et qui dit « Oh, bah c'est plus fort que moi, c'est plus fort que moi !» Tu n'acceptes pas un truc comme ça. Tu dis « Bah non, c'est pas plus fort que toi, va te faire soigner, coco !» C'est pas plus fort que toi, débrouille-toi. Et bah alors, c'est pareil pour Shabbat, c'est pareil pour Kashrout, c'est pas plus fort que toi. Pareil pour la Shonara. Tu bosses, tu bosses, tu bosses, et au final, tu fautes pas. Donc le rabbin nous dit « Im !» Avar Adam alachat mehem. Si quelqu'un donc en a transgressé une, alors il continue et il dit Keshe yaase teshuva ve yashuv micheto chayav leitvadot lifnei Hashem. Ce qui veut dire lorsqu'il fera teshuva et qu'il fera teshuva de sa faute, alors il devra faire le vidouille. Qu'est-ce que c'est que cette redondance? Lorsqu'il fera teshuva et qu'il fera teshuva et qu'il reviendra de sa faute. Tu n'avais qu'à me dire lorsqu'il fera teshuva de sa faute. Eh bien non. Le Rambam nous explique qu'il y a une dimension de teshuva qui n'a rien à voir avec la faute et vers laquelle nous tendons tous, toujours. Donc lorsqu'il fera de toute façon teshuva, alors si jamais il a fait une faute, il corrigera également cette faute. Donc j'ai compris qu'est-ce que ça veut dire qu'on n'est pas forcément fauteur, mais qu'est-ce que ça veut dire on doit faire tshuva alors? Tshuva, ça veut dire revenir. Revenir vers où? Revenir vers qui? Revenir vers quoi? Eh bien, pour comprendre cela, il faut tout simplement retourner aux origines. Vous connaissez ce verset? Bereshit bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Ah oui. Alors, je ne vais pas ici aujourd'hui expliquer ce que veut dire le mot Bereshit. On avait déjà expliqué dans les cours précédents que Bereshit ne veut pas dire au commencement, bien évidemment. Bereshit, ça veut dire pour le Reshit, dans l'objectif de ce Reshit, bara Elohim et hashamayim ve'et haaretz. Bon, ça, on avait expliqué dans d'autres cours, c'est pas notre sujet ce matin. Ce qui m'intéresse ce matin, c'est que veut dire le deuxième mot. Que veut dire le mot bara? Eh bien, bara, oui, ça veut dire à créer, c'est-à-dire, mais qu'est-ce que ça veut dire, création? Et donc, il faut aller voir un petit peu l'araméen. Bara, en araméen, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous savez, si on parle un petit peu arabe, je ne sais pas combien d'entre nous parlent couramment l'arabe, moi, non. Et donc, je vais vous dire quelque chose qui, avec un accent à couper au couteau, l'accent polonais qui parle arabe, donc je vais certainement mal le dire, mais vous comprendrez mieux que moi, en arabe, quand une grand-mère, elle dit à son petit-fils qui fait trop de bruit dans la chambre, elle lui dit « bra, bra, bra », ça veut dire quoi? Ça veut dire « dehors ». Rotaï bara, en araméen, ça veut dire « bachout », à l'extérieur. Amash, un enfant en araméen, on ne dit pas ça un ben. Ben en hébreu, c'est une chanson binyan, c'est une construction. Ton fils, c'est une construction. En araméen, on dit oui, mais pour qu'il devienne une construction, il faut qu'il soit bar. Ben en araméen, c'est bar. Bar, ça veut dire bachout. Parce que s'il est copié-collé de son père, il ne pourra rien construire. Il faut qu'il soit extérieur un petit peu. Bara. Créer, exister, ça veut dire être à l'extérieur. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit également en français, en anglais. Exister, exist, exist. Ça vient du latin. Ces deux mots, exister, c'est ex, ist. Bachout, liot. Ex, être. Ist, sera ex, dehors. Ist, être. C'est pour ça d'ailleurs qu'une sortie en anglais, ça se dit exit. C'est comme ça qu'on parle. Bara, ça veut dire être mis à l'extérieur. Mais à l'extérieur de quoi? Eh bien, Rabotai, avant la création du monde, il y avait quoi? Il y avait quoi, Bémet, avant la création du monde? Il y avait Dieu. C'est tout. Il était grand comment? Ensof. Infini. Donc, il prenait toute la place. Donc, il n'y avait pas de place pour moi, ni pour la création de Bichlal. Donc, Bereshit, pour ce Reshit, pour cette création, Bara Elohim et Hashamayim ve'et Haaretz. Dieu a sorti à l'extérieur le monde. À l'extérieur de qui? De lui. En d'autres termes, Dieu nous a fait de la place. C'est ce qu'on appelle dans le langage de la Kabbalah, Sod HaTzimtzum, le secret de l'amincissement. Que Dieu s'est, entre guillemets, contracté pour nous laisser de la place. Donc, ça veut dire que, dès le départ de la création, et moi, en tant que créature, eh bien, je le ressens et je le vis également, j'ai été mis à l'extérieur du divin. Donc, ma volonté profonde est de vouloir retourner, revenir. La teshuvah, c'est la notion de retour, retour vers Dieu. Pas parce que j'ai fauté, mais parce que j'ai été créé. Et cette dimension de Teshuvah, elle est perpétuelle. Puisque Dieu étant infini, la distance qui me sépare de lui est infiniment grande. C'est-à-dire que je n'y arriverai jamais quelque part à revenir dans Dieu. Donc je suis en Teshuvah Matmedet. Je suis en retour perpétuel. Et vous savez, c'est ce que veut dire cette phrase incroyable. Il y a une phrase comme ça qu'on m'avait enseignée, moi, la première année où j'étais en Israël, où je commençais à peine à faire teshuva, mais cette fois de mes fautes, hein, t'en fais pas. Hein. Ouh là là, j'en ai fait des fautes quand j'étais jeune. Et donc, quand je suis arrivé à la yeshiva à 18 ans, j'ai dit, je vais corriger mes fautes. Et on m'a rendu une phrase comme ça qui est très, très sympatoche, très caressé dans le sens du poil, le mec qui fait tchouva. On avait dit, il est marqué dans le Talmud, et c'est nachon, regarde, ça me permet de marquer, que makom sheba'alet tchouva omedim en tzadikim gmurim yecholim la'amod. Que l'endroit où se tiennent les ba'alet tchouva, les tzadikim ne peuvent pas se tenir. Comment est-ce qu'on m'avait expliqué ça au départ? On m'avait dit, ouais, attends, le mec, il mangeait du cochon, il faisait pas Shabbat et tout, maintenant il a fait tchouva, il arrête de manger du cochon, il fait Shabbat, machin, c'est extraordinaire. Il a réussi à corriger tellement de choses. Le tzadik qui, lui, a toujours vécu dans Shabbat, dans Kashrout, lui, il n'est pas à ce niveau-là. En d'autres termes, le Baal Tchouva, il est plus grand. Ok. Viens, on se la joue pas à l'envers. Je suis un Baal Tchouva. Moi aussi, je faisais pas Shabbat, ce que tu veux. Alors, c'est très bien, c'est très grand d'avoir pris sur soi et d'avoir changé. Mais, enfin, une kola kavod, c'est mieux d'avoir jamais fait, de ne jamais avoir transgressé Shabbat, plutôt que d'avoir transgressé et de maintenant ne plus le faire. C'est très bien, kola kavod, pour celui qui a fait ça comme moi. Mais c'est quand même mieux si tu n'as jamais transgressé Shabbat. Donc, viens pas me dire que le mec qui est tzadik gamour, il est moins grand que le Baal Tchouva. C'est Hamoud, mais c'est pas vrai. Mais en fait, c'est pas du tout ça que veut dire la phrase. C'est absolument pas ça que veut dire la phrase. Alors, venez, on va essayer de comprendre ce que veut dire la phrase. À la base, je suis là. C'est mon niveau, je suis là. J'ai fait une faute. Je suis tombé là. Ah bah oui. Maintenant, je fais tchouva. Qu'est-ce que je fais? Ma tchouva, elle me ramène là. Là où j'étais au départ. Donc, on nous dit « Makom sheba'ale tchouva omdim ». C'est-à-dire l'endroit où se tiennent les Baalet et Shuvah. Ils sont tombés, maintenant ils reviennent. Aval emomdim. Emomdim betshuvatam. Ils se tiennent bamakom. Ils sont statiques, ils sont revenus à l'endroit où ils étaient. Maintenant ce Baal Tchouva, comment il s'appelle puisqu'il a fait Tchouva? Maintenant il redevient tzadik. Et ce tzadik qui est là, ou loyachol la'amod, il ne peut plus se tenir statiquement, il doit continuer à monter, à monter, à monter, à monter, à monter, à continuer sa tchouva qui n'a plus rien à voir avec la faute. En fait, makom shebaalet tchouva omdim, em ofrim les tzadikim, ils redeviennent des tzadikim, et donc ils ne se tiennent plus là, ils continuent à avancer. Toujours dans cette recherche de retourner vers Akadosh Baruch Hu. Seulement, il y a un danger. Eh bien oui, il y a un danger. C'est quoi le danger? Eh bien, c'est de finalement aller jusqu'au bout de cette idée-là, et de revenir à Dieu. Comment ça s'appelle en français revenir à Dieu, mamash? Eh bien, ça veut dire mourir. Ah ben oui, tu peux pas, Baola Mazé, revenir à Dieu, mamash. Donc, prendre cet idéal de tchouva et le pousser jusqu'au son paroxysme, eh bien, c'est avoir une volonté de mort, d'annihilation de l'être pour retourner dans l'infini. Mais autant que je me souvienne, le judaïsme ne prône pas le suicide. Chez le bouddhisme, effectivement, l'idéal, c'est de cesser de vivre pour arriver dans le nirvana. Mais on n'est pas bouddhiste. On n'était pas chrétien tout à l'heure, mais on n'est pas bouddhiste. Et c'est pour ça que notre bracha de la tchouva nous dit la chose suivante. Ashivenu avinu, fais-nous revenir, papa, les toratecha. Et non pas Shivenu Avinu Elecha. Shivenu Avinu le Toratecha. Mais la Torah, c'est pas toi. Ta Torah, c'est pas l'essence du divin. La Torah, c'est la volonté d'Akadosh Baruch Hu. C'est l'expression de sa volonté. C'est ce à quoi on peut arriver. Et donc, on nous dit, Ashivenu avinu le toratecha. Car je veux me rapprocher de toi en faisant ta volonté. C'est ce que je connais de toi. Vekarvenu malkenu la avodatecha. Et rapproche-nous de ce que tu nous as demandé de faire. La avoda. Et là, c'est toute la différence. Au début, on dit, Ashivenu avinu le toratecha. Et ensuite, on dit, Vekarvenu malkenu la Vodaterra. Vous connaissez très bien cette dualité où tantôt on parle de Dieu comme étant notre père et tantôt on parle de Dieu comme étant notre roi. À Rosh Hashanah, Bichlal, on va dire Avinu Malkenu, les deux. Quelle est la différence entre papa et votre majesté? Ben, j'ai envie de te dire, papa, tu lui dis tu, et majesté, tu lui dis vous. Mais il y a autre chose. Nous dit la Gemara, kol ma she ose eved le rabo, ose ben le aviv. C'est-à-dire qu'il doit y avoir la même relation entre un serviteur et son maître qu'il y a entre un fils et son père. De la même façon que le serviteur doit faire tout ce que son maître lui dit, eh bien, de la même façon, le fils doit faire tout ce que son père lui dit. Alors, quelle différence y a-t-il entre les deux? A priori, aucune. Ça va continuer, la Gemara, elle nous dit, non, il y a une différence. Shaben rachai le pashpesh beginze aviv. En d'autres termes, l'enfant, par opposition au serviteur, l'enfant, il a le droit de savoir pourquoi son père lui demande. J'ai fait l'erreur d'un jour enseigner ça à mon fils. Et depuis, tout ce que je lui dis, là-bas, il faut se réveiller. Oui, il faut se réveiller. Là-bas, parce que c'est l'heure d'aller à l'école. Là-bas, parce que c'est l'heure. Là-bas, parce que le ministère de l'Éducation, il a décidé qu'à 8 heures, c'était le début du boulot. Peut-être parce qu'ils se sont dit que tu allais te lever à 6 heures, faire la tefila, ensuite tu as les petits déjeuners, ensuite il faut que tu partes. Bon, ils se sont dit qu'une heure et demie pour se préparer, c'est bien, et que donc à 8 heures, on peut commencer en prenant comme postulat de départ que tu te réveilles à 6 heures. Lama! Bon, t'as compris, ça ne s'arrête pas. Lama. Ah, ben, c'est bidouk à Ben. À Ben, Zemilachon Bina. Le mot Ben, j'ai dit c'est Milachon Binyan, bien sûr, une construction. Mais c'est également Milachon Bina. Ben, ou tsarich lavin. Alors qu'un Eved, c'est Milachon Ovda. Ovda, c'est un fait, une action. Le Eved, il fait. Il comprend, c'est bien, il comprend pas, tant pis. Donc il y a ces deux dimensions dans notre tshuva. On dit Hashivenu avinu le Toratecha. Parce que la Torah, il faut la comprendre. Donc on est à ce niveau-là, ben, banim la makom. Et papa, les bonnes choses là, et ben notre rapport à lui, c'est papa. D'un autre côté, vekarvenu, vekorvenu, malkenu la avodatecha. Mais quand il s'agit de faire la avoda, de faire ce que Dieu nous a dit de faire, eh bien on se comporte face à lui comme étant des avadim. Il y a trois dimensions. Dans l'élévation de l'homme, il y a ce qu'on appelle Eved, Ben, Eved. Ken, il y a Stan Eved qui fait sans comprendre. Il y a le Ben qui est beaucoup plus élevé parce que maintenant il va comprendre ce qu'il fait. Et il y a Madriga ultime, celle de mon cher Abeno, qui est Eved Hashem. Eved Hashem, c'est qu'il a tellement compris, il est tellement Ben qu'il a décidé que c'était plus la peine pour lui de comprendre. C'est-à-dire qu'il comprend tellement qu'il se dit « Bon, bah, c'est bon, j'ai pas besoin de comprendre plus. » En fait, il comprend à chaque fois plus. Et plus il comprend, plus il comprend qu'il a pas besoin de comprendre. C'est « Eved Hashem ». « Ashivenu avinu le Toratecha, vekarvenu malkenu la avodatecha, vachazirenu bitshuva shelema. » Aval efo? Lefanecha. On demande que Dieu nous ramène bitshuva shelema. Mais pas Elecha. Lo, vachazirenu bitshuva shelema Elecha. Parce qu'on a dit, on ne veut pas mourir. Ela lefanecha. Devant toi. Devant toi, ce qui va me permettre, eh bien, tout simplement, d'avoir ce recul. Puisque je ne suis pas chez toi, d'avoir ce recul pour voir ce qui me reste à parcourir. Et je me rendrai compte que plus j'ai avancé, et plus je me rends compte que ben, j'ai encore du chemin à faire. C'est un peu comme quelqu'un qui commence à étudier la Torah. Il commence à étudier la Torah. Je parle de moi. J'ai commencé à étudier la Torah et je me suis rendu compte qu'il y avait... Bon, d'abord, il faut que je dise ici quelque chose que personne ne fait plus aujourd'hui. Mais là, je vous le dis, si un jour vous avez l'occasion de le faire, si vous pouviez retourner au moment où vous commencez votre étude de Torah, je vais vous dire comment moi, j'ai commencé à étudier la Torah. Mon maître, le Rav Cherki, m'a dit... Quand je suis arrivé dans son bureau la première fois, qui m'a accepté pour étudier la Torah, à la Yeshiva, donc première année, ma mâche au début de mon pédigré, eh bien, j'avais la chance d'avoir plusieurs rabbanim. J'avais un rav qui s'appelait le rav Atoun, s'appelle toujours le rav Atoun, qui était le responsable du programme dans lequel j'étais et qui donc m'a mis le pied à l'étrier dans la Torah. Et je me suis pris d'un attachement tout particulier également du Rav Cherki, et donc j'ai été souvent dans son bureau et il m'a dit, voilà, toi tu connais rien. Alors, je lui ai dit, c'est vrai. Il m'a dit, bon alors voilà comment on va étudier. On va passer un mois à apprendre du par cœur. Ah bon? Qu'est-ce qu'on va apprendre par cœur? Eh bien, il m'a dit, tu vas apprendre des choses par cœur, et tant que tu ne connais pas chaque étape par cœur, on n'avance pas. J'ai dit, OK. Alors, il m'a dit, OK, t'es prêt, on commence maintenant? Alors, j'ai dit, OK. Première chose, il faut que tu apprennes par cœur qu'est-ce que c'est le Tanakh. Moi, je me suis dit, attends, je rigole pas là. Il est en train de me dire que je dois apprendre par cœur tout le bouquin? Il dit, non! Tu dois apprendre par cœur que Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Voilà, tu apprends ça par cœur, tu reviens me voir dès que tu sais. Ça m'a pris grosso modo une minute. Et donc, je suis venu le voir, je lui ai dit, voilà, ah, je sais, Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Il dit, Femeod, maintenant, on va aller un petit peu plus loin. Tu vas apprendre par cœur qu'est-ce que c'est Torah. Parce que tu connais Tanakh, c'est Torah, Nevi'im, Ketuvim. Donc maintenant, qu'est-ce que c'est Torah? Je dis, OK, alors c'est quoi Torah? Ben, il m'a dit, Torah, c'est Bereshit, Shmod, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. T'apprends par cœur. Dès que tu sais, tu reviens me voir. Là aussi, ça m'a pris une minute. J'ai dit, ben voilà, Torah, c'est Bereshit, Shmod, Vayikra, Bamidbar, Dvarim. Ah, Femeod. Maintenant que tu connais ça, on peut passer à l'étape suivante. Mazé Bereshit. Et donc, tu dois apprendre par cœur que Bereshit, c'est Bereshit, Noach, Lechlecha, Vayirach, Esara, Tondot. Toutes les parachutes. Une fois que je connaissais toutes les parachutes, il m'a dit, OK, maintenant, qu'est-ce que c'est Shemot? Maintenant, qu'est-ce que c'est Vaikra, Bamidbar, Dvarim? Et j'avais appris par cœur toutes les parachutes dans l'ordre de la Torah. J'avais encore rien appris, hein, Bifnim. Hein. Après, il m'a dit, OK, maintenant, c'est quoi Nevi'im? Nevi'im, il faut que tu apprennes par cœur que c'est Yehoshua, Shmuel, Shoftim, Shmuel, Melachim. Tous les Nevi'im. Et après, il m'a dit, OK, c'est quoi Ketuvim? Et j'ai appris par cœur. J'avais appris pendant quelques jours qu'est-ce que c'était le Tanakh. J'avais rien du tout, hein, je connaissais rien du tout du contenu. Mais je savais comment était formé le Tanakh. Après, on a continué, on a dit, OK, maintenant, c'est quoi la Mishnah? Il m'a dit, Shisha, Sidre, Mishnah. Zman, Nakat. Zraim, Moed, Ken, Nashim, Zikim, Kodashim, Taharot. Donc il m'a dit, OK, t'as appris ça, les Shisha, Sidre, Mishnah, très bien. C'est quoi Moed? C'est quoi Zraim, Slicha? Et donc, j'ai appris toutes les Mishnayot, toutes les Masertot qu'il y avait dans Zraïm. Ensuite, Moed. Ensuite, après la Gemara, c'est quoi toutes les Masertot de Gemara? Et après, le Rambam. C'est quoi tous les chapitres du Yad HaChazaka du Rambam? Tous les entêtes, les 14 livres du Yad HaChazaka. Ça m'a pris longtemps. Ça m'a pris un petit mois. Et j'avais appris finalement par cœur tout ça. Qu'est-ce que c'était la Torah, Nevi'im, Ketuvim, Mishnah, Gemara, Verambam. Maintenant, j'avais appris aucun contenu. Mais une fois que j'avais fait ça, dès que je découvrais un nouveau contenu dans ma tête, je savais exactement où le ranger. OK, ça, c'est Navi, ça, c'est Ketuv, ça, c'est Mishnah, Kacha, Vekacha, Vekacha. Et ça m'a énormément aidé parce que maintenant, ce que j'apprenais, je savais où le mettre. La tête était bien ordonnée. Et donc, tu pouvais apprendre véritablement la Torah. C'était la Shita de Rabbi Yitzhak de Volozhin, le fils de Rabbi Chaim de Volozhin. En tout cas, tout ça pour dire que on demande que tu viennes les Fanecha. Parce que quand j'ai commencé à étudier, bah pour moi, toute la Torah, ça tenait là-dedans. Puis après, j'ai compris qu'il y avait aussi la Mishnah. Puis après, je me dis, oh, c'est énorme la Mishnah. Puis après, je me suis rendu compte qu'il y avait la Gemara aussi. Et j'ai dit, oh là là, la Mishnah, finalement, c'est pas grand-chose. Puis après, j'ai appris qu'il y avait aussi les Midrashi Agada, Midrashi Halakha, et après j'ai appris qu'il y avait aussi les Poskim, et tu te rends compte que t'es pas sorti de l'auberge en fait. Et plus tu apprends, et plus tu découvres des livres à apprendre. Parce que la distance qui te sépare d'Akadosh Baruch Hu, elle est infinie. Et donc tu ne t'arrêtes jamais de remplir cette distance. Et donc on te dit, Va'achazirenu bitshuva shelema aval lefanecha, que j'ai tout le temps quelque chose à parcourir. Baruch ata Hashem. Harotse Bitshuva. Il veut que je mette en place ce processus de retour perpétuel qui n'a encore une fois, et je le dis, rien à voir avec les fautes. Seuls les vrais tzadikim sont en fait capables de faire véritablement teshuva. Et c'est à cela qu'on tend dans la cinquième bracha de la Shmoneh Esrei. À bientôt les amis.